Hello, I'm Maisie Adam, and you're about to listen to a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London. Oh, I'm terrible with my money. I am. I'm absolutely terrible. Like I can't play Monopoly because it hits too close to home. Honestly, because what it is just going around London going, can't afford that, can't afford that. I've got nothing in the bank, and I can only dream of winning 50 quid in a beauty contest.
You might think you're terrible with money, but here's something. Did you know it's easier to save if you do it the day you're paid? Payday Save Day. Building a society of savers nationwide.
Vous écoutez
RMC.
Elles sont là, eh oui, c'est la magie de la radio. Nous, on est à Montpellier. Fred Hermel, lui, est à Madrid. Salut Fredo!
C'est pas très 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 loin quand même. Hola chicos!
Salut Fredo!
Voilà, Fredo voilà. Est parmi nous, bien sûr. On a également avec nous Simone Rovera en Italie. Salut Simone!
Ciao, buonasera, bonsoir!
On a Polo Breitner, évidemment, pour le foot allemand. Salut Polo!
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde!
Et évidemment Julien Laurence qui est à Londres pour le foot anglais. Julien, bonsoir!
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors messieurs, comme de tradition, quelle est l'information principale qu'il faut retenir de votre week-end? Celle dont on parle encore ce soir, lundi, chez vous. On démarre par Fred.
Ah ben, surprenant leader, magnifique leader, parce que là, on n'est plus au mois d'août. Hein. Il y a quand même 10 journées qui sont passées. Et le leader, et le troisième plus petit budget de salaire par la queue... Je vais mieux m'exprimer. Le 17e club qui paye le moins ses joueurs. Grenade est leader, est vrai beau leader. Et déjà, au bout de 10 journées, ils ont 20 points. On estime en général qu'on se sauve avec 42 points en Liga. Donc c'est fabuleux ce que fait Grenade. Et il y a un vrai mouvement populaire autour de cette équipe qui joue bien au football et qui est un petit peu ce vent d'air frais qui arrive dans le foot espagnol. Et c'est un promu et c'est rare. De voir une équipe comme ça tenir aussi longtemps
Fred,
malgré de si peu moyens.
Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé après 10, 11 matchs qu'on ait une équipe comme ça venue de nulle part qui occupe la tête du classement, qui est là virtuel puisque Barça est
réellement
un match en moins, hein, c'est ça.
Alors,
mais néanmoins, c'est quand même une équipe qui est dans le haut, quoi. Donc, oui.
Mon souvenir en 26 ans d'Espagne, moi, je me souviens pas. Alors, des petites surprises au bout de 3, 4, 5 journées, mais là, 10 journées, on est quasiment un tiers du championnat.
Et alors, comment c'est-à-dire les gens là... et les spécialistes analysent ça? Qu'est-ce qu'ils disent de ce phénomène si vous ne le connaissez pas? Parce que nous, des Angers, Nantes ou des clubs comme ça, comme cette année, une année sur deux, on a ce genre de surprise là. On sait un petit peu comment ça se passe, les gros qui dérapent, qui ont des politiques sportives qui les entraînent à faire des saisons de transition à répétition. Mais comme toi, t'es pas habitué, comment c'est vu?
Ben, tout simplement, c'est le résultat d'une vraie politique de la Liga. On l'a déjà évoqué, mais la Liga est de plus en plus resserrée. Il y a un point entre les sept premiers ou deux points entre les sept premiers, quoi. Voilà, c'est les petits clubs sont très bien gérés depuis qu'il y a la DNCG qui est apparue il y a 7-8 ans. Il y a la mutualisation des droits. Il y a un niveau global du foot espagnol au niveau de la formation qu'on connaît qui est très bon. Et puis, il y a quand même aussi des investisseurs étrangers parce qui sont pas comme Valence où ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que là, ce sont des Chinois à Grenade. Mais qui laisse bosser les gens du club.
À Grenade, c'est des Chinois ?
C'est des Chinois. Et ça marche très très bien. Vraiment,
c'est
parce que
l'artifice,
dans l'esprit, dans l'esprit, ça reste un club géré à la papa, quoi. C'est-à-dire que ils se prennent pas pour ce qu'ils sont pas. Il y a esprit de corps dans le groupe. La direction sportive, elle est espagnole. Et puis on fait un mélange savant entre de jeunes joueurs et puis des anciens. Par exemple, comme Gonalons, qui est en train de faire son petit trou, là, c'est pas mal ce qu'il fait. Et puis Soldado, vous vous souvenez de Roberto Soldado? Voilà, il y a des heures d'expérience de première division, parce que la première division, c'est aussi d'expérience, avec des jeunes talentueux qui sont arrivés de D2. C'est un club bien géré. Et puis après, il y a aussi la magie. T'es content parce que tu t'arrives de la deuxième division, tu montes en première division. On sait que tous les clubs en général restent sur cette dynamique, mais là ça se poursuit jusqu'à la dixième journée. Donc c'est plus qu'une surprise, c'est un phénomène finalement qui aurait pas été possible il y a une dizaine d'années parce qu'il y avait trop d'écart de budget entre les clubs. Là aujourd'hui,
hier c'est Gonalons d'ailleurs qui a battu Fekir.
Exactement, oui, il a joué même mieux, il a joué au milieu défensif. Voilà, il y a, parce que le Betis, c'est
devient quoi, c'est Fekir d'ailleurs, parce qu'au début on en parlait, mais là on en parle plus beaucoup là.
Si je dis pas de bêtises, le Betis est 18e. Donc en fait, il est dans une équipe qui ne fonctionne pas et l'entraîneur pourrait être viré demain, donc ou après-demain. Donc voilà, c'est difficile. Il avait fait les premiers matchs, c'était pas mal, mais là ça fonctionne pas. Donc on peut pas dire que ce soit facile pour lui de s'intégrer dans une équipe qui ne tourne pas quoi. Mais vraiment, j'insiste, ce n'est pas, c'est une surprise que Grenade soit si haut, mais ce n'est pas un hasard, c'est dû à une politique de la Liga parce que tout est très très resserré. À un moment, quand on répartit mieux l'argent, quand on oblige les clubs à bien gérer, eh ben on a des résultats. Parce que l'an dernier, c'était déjà comme ça l'année d'avant aussi. Hein.
Grenade donc, évidemment il y a le match en retard Barça-Real, hein, donc ça veut dire que c'est aussi...
Ouais, mais même si le Barça gagne, ils auraient 21, ils auraient 22 points et Grenade a 20 points. Donc c'est-à-dire que c'est quasiment rien. Ce serait très très haut. Hein, quoi.
Alors l'info principale à retenir en Angleterre ce week-end dont on parle encore ce soir, Julien.
Alors Gilbert, c'est bien sûr l'incident avec Granit Xhaka à Arsenal hier où il aurait donc été remplacé par Unai Emery en cours de match après l'heure de jeu. Il s'est d'abord le changement a d'abord été applaudi par tous les Emirates, j'étais au match, ce qui n'a pas du tout plu à Xhaka qui a commencé un petit peu à chambrer les supporters avec ses bras. Ensuite, il a dit le fameux mot F en anglais qu'on pourra pas répéter à la radio, mais en gros, allez vous faire foutre, mais en un peu plus vulgaire que ça. Une première fois, il a continué à chambrer les supporters qui après se sont un petit peu énervés du fait qu'ils marchaient pour sortir alors que le score était de 2-2 à ce moment-là, et que je pense que les supporters auraient voulu qu'ils se dépêchent un petit peu pour sortir, pour faire le remplacement, parce qu'Arsenal avait besoin d'emballer un petit peu la rencontre pour essayer de gagner le match. Donc il a répété encore son insulte avant d'enlever son maillot et de le jeter par terre, vraiment, mais de le laisser tomber par terre, de rentrer au vestiaire directement, de prendre sa voiture et de rentrer chez lui avant même la fin du match. Forcément, cette attitude-là a beaucoup déplu à Arsenal, hein, et en Angleterre où la notion de capitaine est très 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 forte en Angleterre, peut-être plus que dans les autres pays où vous êtes le capitaine du club avant même d'être le capitaine de l'équipe. Vous êtes vraiment, vous représentez le club sur ce que vous faites sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, et c'est vrai que cette réaction de Granit Xhaka qui était déjà on va dire pas forcément très apprécié par les supporters de par ses performances pour être gentil avec lui, assez irrégulière, on va dire, pour pas dire plus que ça, mais c'est vrai que hier, ça semble être la goutte d'eau
que Wenger puis Emery ont toujours aligné ce mec-là, alors que j'ai jamais entendu quelque chose de positif sur lui.
Alors c'est vrai, alors parce que déjà il a beaucoup de caractère, et je pense que c'est une équipe qui a souvent manqué de caractère, cette équipe d'Arsenal, lors des dernières années de Wenger et même la première d'Emery la saison dernière. Au moins, il a porté ça. C'est vrai qu'avec le ballon, ça n'a pas toujours été génial, loin de là. Dans une position qui n'est peut-être pas toujours la sienne non plus, ou en tout cas sa meilleure position. Et n'oublie pas, hein, qu'il est capitaine parce que c'est les joueurs qui l'ont choisi. Emery, cette saison, avait décidé de ne pas choisir lui-même le capitaine, mais de demander à son vestiaire d'élire le capitaine. Et les cinq joueurs qui ont eu le plus de votes ont donc été capitaine et les vice-capitaines. Et Xhaka a été le joueur qui a reçu le plus de votes de la part des joueurs de l'effectif. Donc c'est un joueur qui est apprécié dans le vestiaire. C'est pour ça qu'Emery lui a donné le brassard. Mais c'est vrai qu'hier, c'est
assez
compliqué.
Mais ça, c'est aussi la preuve. C'est aussi la preuve que rien n'a changé. Donc lui était, on va dire, un taulier sous Wenger qui jouait, qui était critiqué par tout le monde et que franchement on voyait pas bon. Emery arrive, rien ne change. Ce gars-là continue d'être une sorte de taulier de vestiaire puisque c'est les mecs qui le choisissent. Ouais. Les résultats et ce qu'on voit sur le terrain d'Arsenal, ben on a l'impression qu'on n'a pas réellement changé d'entraîneur. Donc on se demande quel est le rôle et qu'est-ce qu'apporte l'entraîneur dans ce club qui semble être rentré dans un tunnel sans fin. Il y a rien de neuf à Arsenal, et ça dure depuis combien de temps? Depuis, je sais pas, toutes les dernières années de Wenger, on disait des choses qu'on peut redire aujourd'hui. C'est la qualité de l'effectif, le recrutement qui est jamais bon. Je n'arrive pas à comprendre.
Alors, le recrutement était bon. La différence.
Ou alors c'est trop simple à comprendre, bon, finalement.
Non, mais peut-être qu'effectivement, le problème c'est peut-être l'entraîneur, c'est peut-être l'identité de jeu ou le manque d'identité de jeu.
Réchauffe-moi l'esprit, mais c'est la mémoire plutôt. Mais c'est quoi le recrutement bon que t'appelles de cette année?
Ben, c'est Nicolas Pépé.
Nicolas Pépé qui a un mal fou pour l'instant. Fou à s'adapter. Guendouzi est un jeune joueur. C'est un jeune joueur, et c'est pas sur un mec comme ça que tu vas t'appuyer pour construire un grand Arsenal. Soyons sérieux quand même. Vous n'avez pas sur les mecs Arsenal pensent pas que Guendouzi est un crack. Enfin, faut pas déconner quand même. Vous n'êtes pas convaincu de ça, sinon vous allez dans le mur.
Non, non, mais c'est... Non, mais personne t'a dit que c'était un joueur de classe mondiale. Je t'ai pas dit que c'était un crack ou que c'était un joueur de classe mondiale. Je t'ai dit que c'est des joueurs qui sont allés chercher par leur réseau de recrutement, par leur scouting, qui sont des joueurs en devenir qui vont être très forts. Ceballos, c'est très fort. Lucas Torreira, c'est très fort. Guendouzi, c'est très fort. Pepe, c'est très fort aussi. Tu l'as bien vu en Ligue 1. À un moment, il va s'adapter. Ça a mis du temps pour Fabinho. Ça a mis du temps pour Pulisic à Chelsea. Il va mettre un petit peu de temps à s'adapter, mais il va y arriver. Aubameyang, c'est très fort. Lacazette, c'est très fort. C'est un bon effectif. Et la structure, la restructuration du club a été très importante et très intéressante. Or, je te parle hors entraîneur, avec Raúl Sagnelli qui est arrivé de Barcelone, avec Edu, le directeur sportif qui a fait partie de la grande époque d'Arsenal et d'Arsène Wenger, notamment les Invincibles. Donc ce qu'ils sont en train de faire hors terrain, c'est très bien. Après, sur le terrain, je suis d'accord avec toi, au niveau de l'identité de jeu, au niveau de ce qu'ils sont en train de produire cette saison, c'est assez insuffisant. Et peut-être
mais
que chacun fait partie du problème.
Je suis pas convaincu, hein.
Sur Ceballos, je suis pas convaincu du tout. Il est, tu sais, tu dis c'est très fort Ceballos. Je parle de ce que je connais. Mais c'est un joueur dont on veut pas au Real, en tout cas dont Zidane ne veut pas au Real parce qu'il est pas assez compétitif. Moi, il me semble que c'est vraiment un joueur.
Je trouve qu'il y a trop de joueurs d'appoint. Ce sont des joueurs figure. Effectivement à prix individuellement, c'est pas mal. Mais c'est pas, il y a pas de mecs très costauds. C'est des mecs qui.
Florent. Juste un mot sur Emery et sur son management des équipes en général, parce que personne ne met en cause le fait qu'il sache tactiquement, enfin ce qu'il veut faire. Mais là, il a un problème d'effectif, effectivement, de caractère comme Arsenal a toujours eu malgré tout. Et puis cette histoire, ce qui m'a fait rire, c'est cette histoire du vote à bulletin secret pour le capitaine. Moi, je pense quand même que si t'es un manager, tu sens déjà qui est de toute façon charismatique auprès des autres joueurs. De faire un vote pour savoir qui ils vont choisir. Moi, je dis toujours, c'est toujours cette histoire de république des joueurs. Même si tu penses qu'il faut prendre.
Cette attitude pour un démocrate comme toi.
Non, même si tu penses qu'il faut prendre.
Progressiste qui plus est.
Non, parce que c'est pas la même chose.
Social-démocrate.
Là, t'es.
Oh là là, insulte pour Polo, c'est l'insulte, faites gaffe. Hein.
Ouais, mais bon, c'est comme pour Thuram. Après, on s'aperçoit qu'il marque des buts après avoir vu quelques matchs.
T'as vu le match, j'espère.
C'est la réalité de la société dans laquelle on vit.
Oui, je vais paraphraser Michel Audiard.
Il n'y a pas seulement les idées arrêtées.
Bien sûr.
Non, mais attends, juste pour revenir
Je peux paraphraser Michel Audiard là-dessus, là, sur la social-démocratie.
Vas-y, paraphrase, si tu veux.
Voilà, ben, on défaut cul, on en connaît, la social-démocratie, on est une synthèse. Voilà.
Ça me plaît bien, ça.
Et donc il conclut sur Arsenal.
C'est le problème d'Emery. C'est-à-dire son leadership, en fait, sur un vestiaire. C'est-à-dire que tu remets effectivement Chaka, dont tu sais qu'il y a eu. Bon, voilà, c'est pas le leader dont tu as besoin. Tu fais un vote à bulletin secret pour savoir qui tu vas mettre comme capitaine. Tu as toujours un problème. Au PSG, tu avais un souci de gestion.
Il faut un patron, il faut quelqu'un qui arrive à.
Allez, pause, les gars.
À changer les choses à Arsenal.
L'Allemagne et l'Italie à suivre dans quelques instants, plus tout le reste de l'actu, bien sûr, européenne. On a encore les Drondelmes avec nous un petit moment. Ensuite, on reparlera Ligue 1. On reparlera notamment de Rennes et de l'actu Montpellier-Rennes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut intervenir ici. Et puis le quiz d'ici minuit. Voilà le programme de l'After à venir. À tout de suite.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc c'est bien.
L'After Foot en direct de Montpellier.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Julien Cazard est là également en direct du Pro Race Café ici au Cress à côté de Montpellier avec le club central des supporters qui détient toujours en otage Julien Landry qui est toujours là et qui reviendra pour le quiz tout à l'heure. Les Drôles de l'âme toujours avec nous. Polo Breitner à l'Allemagne, quelle est l'information dont on parle encore ce soir en Allemagne?
C'est toujours le Favre bashing et Kovac bashing lié notamment à ce derby de la roue entre Schalke et Dortmund qui a été d'une piètre facture. Limite et techniquement évidemment par les joueurs de Schalke emmenés par un David Wagner qui fait un excellent boulot. Et puis du côté de Dortmund, on officialise en fait cette crise qui date depuis quelques matchs maintenant, en oubliant en tout cas que le calendrier actuel de Dortmund est très compliqué. Deux fois l'Inter, deux fois Mönchengladbach, Wolfsburg toujours invaincu. Ils finiront par le Bayern et j'en ai oublié un évidemment, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, et puis Schalke évidemment ce week-end. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que tout le monde s'en prend à Lucien Favre Justement parce qu'il n'arrive pas à changer notamment offensivement son équipe, il n'arrive pas à faire évoluer le jeu. On oublie que Paco Alcácer n'est pas là et évidemment on se rend compte qu'il n'y a pas de deuxième attaquant. Les gens oublient évidemment en Allemagne que Lucien Favre n'a jamais été un grand fan des attaquants et qu'il a toujours souvent utilisé des 9,5. C'est pour ça qu'il y a eu Mario Götze qui a été assez catastrophique d'ailleurs et qui est sorti à l'heure de jeu ce samedi. Et puis de l'autre côté évidemment c'est Niko Kovac qui remporte un match extrêmement poussif contre l'Union Berlin. Heureusement que Lewandowski est là, 13e but de la saison en Bundesliga, c'est-à-dire qu'on est en train de se poser la question de savoir s'il va arriver à battre les fameux 40 buts de Gerd Müller saison 71-72. Sinon, c'est pas beau du tout. Donc il y a vraiment un vrai problème à ce niveau-là. Donc c'est toujours génial pour le championnat parce que c'est très très serré, mais les grosses cylindrées comme Dortmund qui a été inexistant à l'Inter et comme le Bayern Munich dont on a peu apprécié la performance en Grèce, ça reste semaine après semaine et ça devient compliqué.
Bon, Lewandowski, t'y crois toi à ce record là?
Moi, j'y crois pas les matchs. Ça serait extraordinaire, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que déjà, il est plus qu'à 5 buts d'un certain Jupp Heynckes, donc il montera sur le podium. Il a en ligne de mire les 268 buts d'un certain Klaus Fischer, que vous devez tous vous rappeler. C'était évidemment France-Allemagne 82, le retourné acrobatique de Klaus Fischer.
Et oui,
c'est,
oui.
Bah, donc, oui. à ce niveau-là, c'est assez impressionnant ce que fait Lewandowski. Maintenant, 40 buts dans la saison, je n'arrive pas à imaginer ça. Et surtout, faut surtout pas qu'il se blesse, parce qu'il y a plus personne, en fait. Excusez-moi d'être agressif, la baudruche Coutinho est en train de se dégonfler dans tous les sens.
Oh, c'est-à-dire que Polo,
il est pas bon.
Arrête,
Daniel,
de dire qu'est-ce qu'il est que pas bon, ça va.
J'ai pas dit qu'il était au niveau de Marcus Thuram, mais j'ai dit qu'il était pas bon. La deuxième chose qui est importante, c'est que on essaye. Là,
ils sont nuls, ces dirigeants. Manchester Gladbach, d'aller chercher un joueur comme ça. Tu te rends compte qu'il en met des bouts.
Toi, tu t'es mis à défendre Marcus Thuram.
Non, mais c'est tellement caricatural, si tu veux.
Mais c'est caricatural de dire qu'il marque des buts.
Il va mettre 15 buts en Bundesliga dans le meilleur championnat du monde.
C'est caricatural d'avoir un résumé d'un match. C'est caricatural d'avoir un résumé d'un match.
Mais non, je l'ai vu jouer en France avant toi, Polo.
C'est ça, là.
Je l'ai vu avant toi. Je l'ai vu jouer avant toi.
Sur Marcus Thuram, c'est compliqué.
Oui, je l'ai vu jouer. On l'a vu jouer en France, Polo. Désolé, on l'a vu jouer avant toi. Donc, c'est un immense tocard. Les dirigeants de Manchester Gladbach sont des tocards.
C'est un grand joueur, Flo.
Non, mais c'est pas un tocard. C'est pas le tocard dont parle Polo.
Non, mais bon, c'est pas. Tu vois,
bah ouais, mais bon, faut le dire. Parce que bon, si tu nous dis que c'est le meilleur championnat, les meilleurs recruteurs, et qu'ils sont leaders de la Bundesliga avec un joueur qui marque des buts, tu vas nous dire que c'est le plus gros tocard de l'histoire de la Bundesliga.
Ça m'a pas ce week-end. C'est-à-dire juste après le but qu'il marque, si tu veux, il est envoyé sur le côté droit, il te fait un centre, ils sont en surnom de Mönchen Gladbach, c'est génial, il fait un drop. Donc c'est pas grave, c'est ça le niveau
il a fait
du
un drop,
football,
ouais.
c'est très bien.
Bon, ça va être très bien. Bah, tes dirigeants, ils sont nuls alors. Parce que pour aller chercher un joueur comme ça et le mettre titulaire, c'est pas possible alors. Comment tu veux faire ça?
Déjà, faut connaître l'effectif et savoir ceux qui sont blessés. Hein, ça peut être important pour savoir qui.
Parce que dès que tu vois un joueur un peu grand et un petit peu maladroit parfois, évidemment, c'est un tocard.
Vous êtes pas d'accord, c'est pas bien grave, dis-moi, Polo, ça veut dire qu'une fois que les blessés seront revenus, il jouera plus?
Ça va être compliqué pour lui, je pense, oui. Bah alors le problème c'est que Pléa est blessé, Mbolo s'est blessé aussi, ouais. Donc il reste Thuram, Lartindl revient de blessure, donc ça va être. Si il va jouer, ça va être génial. Il va avoir le ballon d'or à la fin.
Bon, mais malgré tout, ils sont leaders. C'est quand même pas, ouais. C'est quand même pas anodin. Est-ce qu'ils peuvent rester là? Enfin, ça commence à durer maintenant.
Bah, ils ont un bel effectif. C'est l'une des équipes outsiders de la saison et qui a la capacité de se qualifier pour une Ligue des Champions. Le problème, encore une fois, c'est que le Ginter, le champion du monde 2014, est blessé en défense centrale, que Alassane Pléa vient de se blesser, que, encore une fois, Mbolo, qui lui a. Pareil, il fait pas 1m90-95 comme Thuram, mais il a un vrai problème technique. C'est-à-dire son premier touché et le dernier, c'est souvent assez catastrophique. C'est dommage, c'est entre les deux, c'est sympa ce qu'il fait. Mais derrière ça, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est ce que met en place Marco Rose, encore une fois, l'école Salzbourg, l'école de Jürgen Klopp, mais c'est intéressant ce qu'il faut, de là à dire qu'ils vont aller chercher le titre.
Tu crois pas trop.
Il va falloir en deuxième partie de saison, déjà c'est super serré, donc on va voir. Ils ont remporté un match 4-2 intéressant contre l'Eintracht Francfort ce week-end, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs techniques qui permettent. Si Mönchengladbach, pour le faire très simple, devient le champion d'Allemagne 2019-2020, c'est que le niveau de la Bundesliga a régressé. C'est aussi simple que ça.
En Italie, quelle est l'info dont on parle encore ce soir après ce week-end de foot, Simone?
Alors, la dernière info, celle qui est tombée il y a quelques heures, c'est la suspension de 3 matchs de Franck Ribéry pour avoir bousculé une arbitre. Et ça fait beaucoup parler parce que déjà, l'acte, on ne connaissait pas cet côté un peu violent et énervé de Ribéry qui s'était déjà pris à son entraîneur.
On ne connaissait pas le côté énervé de Ribéry, bah, dis donc.
Bah, en Italie, on l'avait jamais vu. Il était arrivé, tout sourire, tout se passe bien. Donc, oui, bien sûr, on le connaissait un peu de l'Allemagne et de son passé. Mais en Italie, il avait fait un sans faute. Il était extraordinaire. Donc là, il arrive, il fait une grosse scène au moment où il doit sortir du terrain parce que apparemment, il voulait pas sortir. Et en plus, après une décision qui fait beaucoup énerver la Fiorentina sur la fin du match, il s'en prend un assistant. Donc, la sanction est tombée ce soir. C'est 3 matchs de suspension.
Et 3 matchs, c'est...
Sentir super bien.
Oui, c'est, j'allais dire,
voilà,
c'est gentil,
voilà, ça fait discuter beaucoup parce que il y a ceux qui disent bah 3 matchs c'est rien. Il y a quand même aussi les côtés de dire les supporters de la Fiorentina quand même sont déçus de voir Ribéry qui va manquer dans un moment si important. Et il y a la surprise, comme je disais, de ne pas avoir jamais vu Ribéry faire rien d'erroné, rien de grave, aucune erreur jusqu'ici. Et là, il pète totalement un câble. Donc, ce soir, c'est vraiment l'info qui fait discuter. Si on regarde un peu plus le week-end, c'est l'énième catastrophe sur le terrain du Milan. Une catastrophe qui continue, même dehors du terrain, parce que ce soir a été approuvé son bilan comptable de la saison dernière. Et la perte est de 146 millions d'euros sur la saison dernière. Donc, imaginez qu'est-ce que c'est la situation économique du Milan. Au Milan, qui sur le terrain, par contre, continue à ne pas y arriver. Là, 3 points plus que l'équipe qui joue maintien. 3 points plus que Brescia qui joue les maintiens. Les 12e de Serie A. Déjà 5 défaites en 9 matchs de championnat. 8 changements d'entraîneur. Avec Pioli qui, on dirait qu'il sait pas quoi faire en ce moment pour redresser la barre. Avant, vous parliez de la République des joueurs de Arsenal. Bah, Milan, on dirait plus un collectif des squatters, une centre social où tout le monde fait ce qu'il veut. Parfois il y a quelqu'un qui fait la gueule et prend un peu de pouvoir et 2 jours plus tard il est parti. Donc c'est vraiment pour moi la catastrophe totale. Et en tout ça, il y a une guerre qui commence à s'ouvrir entre la direction sportive, on peut dire Maldini et Boban, et les propriétaires. Maldini a dit je veux pas rester ici si on doit mettre 15 ans à redevenir un grand club. La propriété n'a pas beaucoup apprécié ça. Et aujourd'hui, dans l'assemblée des actionnaires, ils ont dit, les projets à long terme, mais moins de 10 ans. Donc, en tout ça, imaginez les supporters qui encore rêvent d'être protagonistes, un peu comme a toujours été Milan sous l'histoire de foot italien européen dans les dernières années.
En même temps, Milan, avant que Berlusconi arrive en 84, il y a eu une longue période de disette.
Oui, ils sont après, en train de retraverser 30 ans de domination totale.
Mais ils sont en train de traverser une période terrible qu'ils ont déjà plus ou moins connue. Maintenant, il faudrait que quelqu'un reprenne le club, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de dettes.
Elliott, depuis qu'ils sont arrivés, les groupes Elliott, ça fait 2 ans, ils ont mis 265 millions d'euros dans les clubs.
Pour rien.
Pour les dettes, pour le mercato. C'est de l'argent, c'est pas mal d'argent. Il n'y a rien qui marche. Parce
moment, ils vont en avoir marre d'en mettre parce que c'est mal dépensé, visiblement.
Parce que l'idée du club, c'est de dire, faire un modèle un peu à la Monaco il y a quelques années, Lille acheter des jeunes, comme Rafael Leao, si Hernandez, Bennacer.
Avec un club qui a cette histoire-là, tu proposes ça?
Aujourd'hui, les seuls modèles économiques rentables pour un club en difficulté, probablement, c'est ça. Sauf, c'est d'être le Paris Saint-Germain. Sauf que le Paris Saint-Germain, c'est une autre histoire. C'est commencé il y a 7 ans.
Milan, c'est pareil. Milan, c'est un club qui doit être acheté par un mec plein d'oseille, qui met sur la table, qui construit une équipe et basta. Ça va pas devenir un club à trading de joueurs. C'est mort d'avance.
Maldini, il faut trouver quelqu'un.
Et Boban, ils vont pas bosser dans un projet pareil.
C'est ça. Et Leonardo voulait pas passer dans un projet pareil. Il est parti.
Ouais. Si vous avez des questions, drôle de l'âme ici à Montpellier, faites-nous signe. Il y a des questions foot pour Simonet, Fred, Polo, il y en a une là-haut, par exemple. Revenons rapidement à l'Angleterre. Tu nous as pas parlé de Liverpool et du match du week-end qui est quand même un scénario assez dingue, Julien.
Un gros match encore.
Ouais, gros match, effectivement. C'était la grosse affiche d'hier après-midi, du dimanche après-midi.
Il y avait Saint-Etienne-Amiens en même temps, donc c'était pas simple.
C'est vrai, t'as raison, Daniel. C'était pas simple. Je pense que d'ailleurs, l'audience. Sur l'audience sur RMC Sport a dû en souffrir un petit peu, mais pour ceux qui ont regardé, c'est vrai que c'était assez sympa. Tottenham a ouvert le score dès la 47e seconde de jeu par Harry Kane, et après ça, j'ai été un petit peu déçu par le plan de jeu de Pochettino, qui a fait jouer son équipe très bas finalement, encore plus après l'ouverture du score si tôt, et j'ai trouvé que si Tottenham avait joué un petit peu plus, par exemple si Ndombele avait été titulaire, parce que dès qu'il est rentré après l'heure de jeu, il a eu une grosse influence sur le match, il a vraiment gêné le milieu de terrain de Liverpool. Moi je l'aurais fait débuter, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'il débute pas après son match en Ligue des Champions, mais bon, Pochettino a fait ses choix, mais j'étais un petit peu déçu par le plan de jeu de Pochettino, qui selon moi a été un petit peu trop prudent, mais Liverpool a été très très fort encore.
Parce que c'est une équipe qui est tellement peu en confiance qu'elle n'arrive plus à jouer, quoi, tout simplement.
Elle a joué un petit peu les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes où elle a pris après le penalty de Salah, mais sinon, après, sur une faute de ton ami Serge Aurier d'ailleurs, qui a encore été catastrophique.
Parce que j'avais pas vu qui avait fait la faute, donc tu confirmes, c'est bien lui. Hein.
C'est bien
l'ancien meilleur arrière droit d'Europe qui a fait cette faute. Oui, d'accord. Non, c'est pour
tu peux lui faire confiance. Hein. Tu peux lui faire confiance pour ce genre de.
On le voyait déjà au PSG, mais ici, les observateurs avisés nous disaient que c'était un arrière-droit extraordinaire. Hein,
un mot juste sur Liverpool, ouais. Julien, parce que quand même, même si effectivement ils ont été encore très très impressionnants, mais je suis d'accord avec toi aussi parce que Tottenham à un moment donné est resté dans sa moitié de terrain. Et à l'inverse, j'ai trouvé que Liverpool était un peu toujours dans les mêmes schémas. Et tu te dis que physiquement, si ça baisse un peu, tu te dis que ça peut être un peu compliqué.
Ah oui, mais eux, ils poussent jusqu'au bout.
Hein. Mais est-ce que t'as pas senti hier, effectivement, tu le dis, toi, que déjà tactiquement, si Pochettino avait été un peu plus inventif, il y avait un coup à faire. Et est-ce que tu penses qu'au final, pour se projeter un peu sur la suite, il va pas y avoir un moment, une difficulté à assumer ce style de jeu longtemps?
Peut-être, mais.
Du côté de Liverpool.
La seule façon qu'ils peuvent perdre des points, c'est s'ils trouvent une équipe qui met encore plus d'intensité qu'eux, encore plus d'aspect physique et d'impact physique.
Le problème, c'est qu'à force de pousser, ils y arrivent toujours. Est-ce qu'ils ne cèdent rien?
Ils y arrivent toujours, t'as raison, Daniel. Et deux, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Angleterre qui sont capables de rivaliser à ce niveau-là. Manchester United l'a fait pendant une mi-temps à Old Trafford. Dans un jour, le week-end dernier, où c'était un jour un peu sans pour Liverpool, ils sont quand même allés chercher le match nul. Mais sinon, à part Manchester City, c'est très compliqué d'aller déranger cette équipe parce que quand tu vois l'activité au milieu de terrain de Wijnaldum, de Fabinho, d'Anderson, et pourtant vous savez que je suis pas un fan d'Anderson du tout, mais c'est et puis après les trois devant, c'est incroyable. Hier ils peuvent marquer 6 buts facilement, 5 ou 6 buts facilement contre une équipe qui jouait très bas dans son camp. Et c'est vrai que c'est difficile de voir comment tu peux les gêner encore plus que ça.
Et d'ailleurs, Tottenham s'est trouvé un gardien. Hein. Je dis ça par rapport à Loris parce qu'hier il a fait un match énorme, Gazzaniga hier.
On a une question ici dans le public à Montpellier. Bonsoir.
Bonsoir.
Ton prénom, Sofiane. Une question pour qui?
Il y avait une question pour Simonet et pour Lorenz. Bon, on verra lequel va répondre en premier.
Simonet et Julien, on y va.
Par rapport à Simonet, notamment, c'est les questions de rachat de la part de LVMH pour le Milan AC. Il y avait des rumeurs de ce propos comme quoi Bernard Arnault serait intéressé pour acheter Milan AC. Notamment, je pense, par rapport à l'image de marque du Milan, le prestige, la mode, tout ça, qui serait intéressé pour ce rachat. Et pour Lorenz, c'était plutôt la famille...
Tu peux l'appeler Julien. Ah oui, Lorenz, c'est pas son prénom.
Voilà, c'est pour Julien, du coup, la famille héritière d'Arabie Saoudite, qui, elle, plutôt voulait racheter Manchester United. Je voulais savoir si, du coup, vous avez des infos, c'était juste...
Donc, Bernard Arnault achète Milan, alors que...
Ah, moi, j'ai jamais entendu.
Il met pas de l'oseille dans un club français, ce serait... Mais en même temps...
Simonet, t'as entendu quelque chose?
Bizarre, oui, c'est une info qui circule depuis quelques mois, je dirais depuis l'été. Et en Italie, on parle beaucoup du fait que le groupe Elliott veut quand même chercher des améliorer les comptes du Milan pour revendre à un homme d'affaires. Donc, les noms circulent vraiment. Et une des choses plus importantes que Milan voudrait faire avant de vendre, c'est de finaliser ses projets du stade. Mais c'est vrai que les noms plus forts qu'il y a en Italie sur celui qui pourrait être un nouveau homme d'affaires intéressé, c'est bien le propriétaire du groupe
Bernard Arnault. Je ne sais même pas qui connaissait le football.
Oui, non, c'est vrai que c'est très étonnant ça.
Par rapport à la mode peut-être.
J'imagine mode, il prend directement Memphis puisqu'il porte tellement bien ses habits.
Ah oui.
La bavette. Le bavoir.
Directement il est transféré. Il est transféré en boutique direct.
Le rachat éventuel de United, t'as entendu quelque chose pour répondre à Sofiane?
Alors c'est une rumeur, Sofiane, qui date depuis très longtemps, hein, même avant l'arrivée des Glazers. Déjà on parlait beaucoup de la famille royale d'Arabie Saoudite qui pourrait racheter le club. On en parle encore de temps en temps. C'est quelque chose qui revient un petit peu à la surface sans qu'on sache vraiment exactement si c'est sérieux ou pas, si c'est possible même. Parce que est-ce que la famille Glazer, qui aujourd'hui est propriétaire de Manchester United et à qui ça rapporte beaucoup d'argent, parce que chaque année ils prennent entre 20 millions d'euros de dividendes sur les comptes du club. Est-ce qu'eux seraient prêts à vendre? On pourrait parler s'il y avait vente. On dirait aujourd'hui que la valeur de Manchester United, c'est environ 3 milliards d'euros. Il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement, dans le monde qui peuvent aujourd'hui mettre 3 milliards d'euros, voire même 2 milliards d'euros, sur un club comme Manchester United. Mais la famille d'Arabie Saoudite peut le faire. Même 1 milliard, t'as raison. mais les Saoudiens le peuvent, donc il faudra continuer à suivre ça. Mais je pense que les Glazers, aujourd'hui, ne veulent vraiment pas vendre le club.
Merci, Sofiane, pour cette question.
Allez, Montpellier,
rajoute Sofiane. Fred, reste de l'actu espagnol, qu'est-ce que tu voulais nous dire en priorité, outre Grenade?
Qu'il n'y a pas eu de classico quand même. Mais je vais vous dire que.
Et donc, il n'y a pas de classico, Barça et Real, l'Espagne est dépeuplée.
franchement, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pourtant, je suis le premier à dire c'est super, la Liga, il y a plein de clubs intéressants, ce qui est vrai. Mais sincèrement, quand il n'y a ni le Real, ni le Barça qui jouent,
Ils ont fait quoi, tes collègues qui font les débats la nuit et tout, là, ils ont parlé de quoi?
D'être du prochain marché de transfert.
Ils ont même pas.
Dans les journaux, ils ont parlé de.
Ils disent pas Valence a perdu, l'Atlético, tout ça.
Parce que entre Coquet et le coach Simeone et le public, ça se passait pas très bien. Bon, là, ils sont rabibochés grâce à la victoire face à l'Atlético Bilbao. Et l'Atlético, après sa victoire en Ligue des Champions, a gagné en Liga, donc il est tout en haut là. Il y a eu plein de petites infos, il y a eu plein de choses. Mais il y a eu vraiment le sentiment. Ce week-end, qu'il manquait quelque chose, quoi, vraiment. C'est-à-dire que quand ni le Barça ni le Real jouent, je vais pas dire que c'est pas intéressant la Liga, parce que c'est pas vrai. Mais c'est un peu, tu sais, c'est sans caféine, quoi. Tu vois, c'est un peu, c'est pas pareil. Et moi, je l'ai vraiment senti très fort.
C'est la Liga Light, la Liga Zéro.
Ouais, la Liga Light, pas zéro, mais on va dire la Liga Light. Voilà. Et donc dans les journaux, c'est comme s'il y avait des grands trous, des pages blanches dans les journaux, et ils ont rempli ça à Barcelone en parlant du marché des transferts et du possible départ de Rakitic au mois de janvier, et au Real la possible arrivée d'un milieu de terrain au mois de janvier, quoi. On avait l'impression d'être comme en plein été, quoi.
Au moins Zidane a passé un week-end tranquille.
Monsieur, il était bien tranquille. Mais bon, il y a les Ganes quand même mercredi soir, il faut se méfier, hein, parce que.
Il y a quand même une histoire qui date de ce soir, là, c'est que Valverde a découvert que le Griezmann s'était barré aux États-Unis voir des matchs NBA. Et apparemment, il était pas au courant.
Ouais, mais bon, il était libre, il avait le droit.
Ça peut le contrarier.
Après, tout dépend du règlement interne de chaque équipe, mais. Le coach.
Si Messi appelle le coach en lui disant tu trouves normal que.
Là, ça sera moins bien.
Là, il y aura une sanction.
En NBA.
Ouais, mais après, il y a deux ou trois jours de repos, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Par exemple, dans les clubs, et c'est dans tous les grands clubs en Espagne, c'est comme ça, et je pense que même dans les petits, en période d'entraînement et de compétition, tu n'as pas le droit de quitter l'Espagne, quoi. Voilà, sans autorisation. Bale, par exemple, aujourd'hui, s'est entraîné plus tôt, il est parti en Angleterre pour des questions, après des papiers, des trucs familiaux, il va revenir, etc. Là, quand il n'y a pas de jour de repos, on n'a pas le droit de partir. Bon, c'est ce que faisait, et c'est l'une des raisons pour laquelle il a été plus ou moins viré du Real, le joueur d'Arsenal allemand avec ses gros yeux globuleux.
Ozil
partait le soir à Milan où il avait une copine, il revenait dans la nuit tôt le matin pour l'entraînement, etc. Et un jour ils ont découvert ça. Mais Griezmann, sur des jours de congé, puisqu'il y avait deux ou trois jours de vacances, il a le droit d'aller où il veut, quoi. Il est pas obligé de dire à son coach attention, je vais aux États-Unis voir un match de basket, quoi. Je pense que c'est une fausse polémique, quoi.
ou pas.
Bon, très bien. Alors, j'aimerais quand même que Polo nous dise. Oui,
on connaît pas le tu sais, si qu'est-ce qu'a fait Cristiano qu'il n'a pas joué ce week-end? Il n'était pas à Lecce avec la Juve et la Juve a fait un match nul.
Il est allé voir son copain au Maroc.
Il est allé chercher la truffe. Les truffes. Comment on dit?
La truffe blanche.
Avec les chiens, pas avec les cochons. Donc,
Non, mais, mais attends, très important. La truffe blanche, parce que c'est bientôt la période, ou la truffe noire?
La truffe blanche. À Alba, il est venu. Il n'est pas allé dans une ville n'importe laquelle. Il est venu dans ma ville à chercher la truffe. Il a posté même les photos, bien sûr. Non, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait.
T'en as eu un peu, toi, pour ton risotto?
Cristiano et chez Sibonnet, alors.
Et donc, j'ai mangé des risottos aux champignons ce soir. Sans la truffe.
Très bien.
La truffe. Polo,
il a appelé son chien truffier Messi.
On a beaucoup parlé de PSG-OM dans l'after. Le derby de la Roure, là, le célèbre derby, est-ce qu'il a perdu un peu de sa superbe ces derniers temps quand même? Parce que c'est déséquilibrant entre les deux clubs, non?
Pas tant que ça. En fait, tu sais, lorsque c'est un derby, en général, l'intensité compense beaucoup de faiblesses techniques des uns et des autres. Vous savez, il y a deux ans, il y a eu un certain 4-4 quand même. C'était pas n'importe quoi. Non, ce qui est sûr, c'est que ce derby là en fait montre encore une fois, et comme souvent et depuis 60 ans maintenant, que Schalke est toujours dans l'ombre de Dortmund, alors qu'il n'y a aucune raison en fait qu'il le soit. Je donne toujours cet exemple. Lorsque en 1997 le coach de Schalke, justement à l'actuel, était remplaçant lors de la finale de l'UEFA contre l'Inter de Milan, cette année-là Dortmund gagne la Ligue des Champions. Donc il y a toujours ce côté, alors ils sont toujours là devant nous. D'ailleurs il y a des expressions qui sont assez intéressantes. Par exemple, du côté de Dortmund, on dit toujours à Schalke, si tu veux voir Schalke en haut du classement, t'as juste à le retourner, quoi. C'est des choses comme ça.
C'est bon,
c'est des choses comme ça qui font mais c'est un derby assez passionnant, qui est tout simplement l'histoire de la roue, évidemment, qui est le ce qu'on appelle en Allemagne la mère de tous les derbies. Je pense pas. Alors ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment Schalke a prévu 25 à 30 millions de pertes l'année dernière, et ils ont prévu 3 ans pour revenir en Europe. Donc en gros, on n'est plus dans le troisième club d'Allemagne, si tu veux, derrière Dortmund et le Bayern. D'autant plus que maintenant il y a une nouvelle concurrence avec Leipzig, voire d'autres clubs. Je rappelle que par exemple l'Eintracht Francfort a un objectif dans 2-3 ans pareil d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est assez impressionnant, la rapidité de développement des clubs. Schalke, le problème, c'est qu'ils ont aussi 225 à 250 millions de dettes, qui ont fait un petit peu le mouton noir de la Bundesliga, et à eux tout seuls ils ont 30 à 40% de l'ensemble des dettes du football allemand, enfin de la Bundesliga. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est des choix stratégiques qu'ils ont fait à l'époque, c'est-à-dire de ne négliger personne et de pas lorsqu'il y a eu des grosses restructurations en Allemagne. Schalke a décidé de rester dans une logique associative, alors que Dortmund, par exemple, il y a eu beaucoup de personnes lorsqu'il y a eu la quasi faillite de 2006, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu vraiment de l'argent, des gens qui avaient donné au club, etc. Et évidemment, vous savez comment ça se passe, on favorise l'État et enfin ensuite la région, et ensuite les entreprises arrêtent derrière, etc. Et donc ils traînent un petit peu ce boulet. Ils ont compensé ces dernières saisons via un centre de formation assez intéressant. Je vous rappelle Leroy Sané, les quatre joueurs champions du monde, Manuel Neuer, Draxler, Evedes, et il m'en manque un évidemment, Mesut Özil évidemment. Et donc, si tu veux, ça permet de compenser, sauf qu'ils n'arrivent pas à garder leurs joueurs. Et là, ils ont un nouveau coach qui s'appelle David Wagner, qui est américain, américano-allemand, puisque son père était un militaire américain, qui est un ancien, ce qui est d'ailleurs le meilleur copain de Jürgen Klopp, et qui est un ancien de Mayence et de Schalke, et il connaît exactement la structure du club. Et en fait, ce qui fait, il est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire que l'équipe, elle est très très solide, très compacte. Évidemment, ils n'ont pas une grosse attaque. Huntelaar n'est plus là pour prendre le dernier attaquant qui a marqué un peu le club de Gelsenkirchen. Et c'est une bonne surprise qu'il soit à ce niveau-là. Il n'a pas perdu de sa superbe. Non, tu ne parles que de ça. Hein. C'est pas. Okay.
Attends, tu te rends compte quand même qu'en 97. L'Europa League et la Champions League étaient gagnés par les deux clubs de la Roure. Ouais. Comme si t'imagines dans un pays quand même qui c'était pas le Bayern en plus qui gagnait l'une des deux. T'as deux Allemands mais de la même région, d'une région de foot, c'est quand même
entre
un truc.
Deux Italiens en finale.
L'Inter d'un côté.
Oui, exactement.
La Juve,
C'est comme si Montpellier et Nîmes gagnaient les deux.
Ouais, exactement. Ou Saint-Étienne et Lyon, tu vois, pour te dire, sans être le gros.
Mais à l'époque, on les appelait les Eurofighters. C'est-à-dire, c'était pas une grosse équipe, Schalke. C'est juste une équipe qui se bat. D'ailleurs, de mémoire, il y a eu 1-0 c'était un aller-retour à l'époque. Il y avait 1-0 et 1-0. Et lorsque tu regardes les stars de l'Inter et ce qu'il y avait à Schalke.
Ah, Simone, il doit s'en souvenir, hein.
Ouais, j'ai des souvenirs.
Simone, pour conclure, dis-nous un mot de Thiago Motta, là. Premier match, première victoire.
Premier match, première victoire. Il est déjà rentré dans l'histoire du foot italien parce que pour la première fois, les trois joueurs qui sont rentrés du banc des touches ont marqué. Il était mené en 0, il fait des changements et il gagne 3 ans avec des très belles stats quand même pour un club qui lutte pour le maintien. 86% de passes réussites, c'est-à-dire une botte de perfection dans les passes, un style qu'on dirait déjà Thiago Motta. Il s'est mis Genoa dans la poche, c'était une première match, une première victoire, mais c'est vrai qu'on a vu quelque chose de très intéressant et on dirait qu'il pourrait faire une belle carrière. Moi, c'est l'espoir, mais attention, après demain soir, les premières petites tests face à la Juve au Juventus Stadium, on verra si Motta est en train vraiment d'échanger de Genoa et quelque chose dans le football.
Oui, on vous retrouve d'ailleurs cette semaine puisqu'il y a du championnat un peu partout chez vous toute la semaine. Merci les gars.
Adios.
Ciao.
Juste avant, il y a Mourad, il veut dire un mot à Fred là. Mourad qui est notre producteur fidèle.
Oui, salut Fred, je voulais te demander, en fait, salut. Ce week-end, je suis à Madrid et je voulais savoir si tu avais deux places pour Real Séville.
Réponds pour Fred, c'est pas la FNAC espagnole. Donc Mourad.
Si tu vas. C'est pas Séville, c'est le Bétis. Enfin, c'est le Bétis de Séville.
C'est le Bétis.
C'est oui, samedi. Oui. Écoute, je pense que si tu vas au guichet.
Un bar en ville.
Oui, en fait, les mecs, il faut mieux aller à la dernière minute. Parce qu'en fait, les socios qui n'y vont pas, les places sont remises en vente. Donc en fait, parfois, il n'y a plus de place 15 jours avant, mais la veille, t'en as. Donc tu vas au guichet le jour du match.
Ou la veille.
Super. Merci pour le tuyau, en tout cas.
Au guichet la veille, effectivement, tu entends les places. Bon, elles sont pas bon marché pour autant, hein, je te le dis tout de suite, moi.
Non, mais je pense que, sincèrement, tu dois
au stade. Hein.
Mais il y a des places, ouais.
Okay. Merci, les gars, bonne soirée. Merci. Dans quelques instants, la Ligue, le reste de l'actu, Survivor et le quiz, messieurs, dames. Julien Cazard, vous l'entendez plus. Pourquoi ? Parce qu'il est concentré déjà sur le quiz. A tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot en direct de Montpellier.
Hello, Sunil Patel here. This is a set performed by me at the Cavendish Comedy Club in London.
Hello. So I get the idea of saving as well. You're supposed to like make good decisions now for your future self, but like I just don't think that guy deserves it. Like, what's he done for that? He hasn't earned that money. I've earned that money. He's done nothing for it. I've earned that money, so I'm going to keep it because I like nice things.
Well, here's a message from your future self. It's easier to save if you do it the day you're paid. Payday Save Day. Building a society of savers nationwide.